Bonsoir à tous et bienvenue pour ce second épisode de Parce que la science n'attend pas, votre émission d'actualité scientifique hebdomadaire. On commence sans plus attendre avec notre premier sujet. Des physiciens sont parvenus à intriquer pas moins de 16 millions de particules, ce qui constitue le record en la matière pour l'instant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, des particules qui sont intriquées ? Avant de commencer les explications, soyons bien clairs. Nous entrons ici dans le domaine de l'infiniment petit, avec des échelles de taille de l'ordre de celles de l'atome. À ces échelles, mécanique classique de Newton et compagnie ne sont plus valables du tout. On entre dans le domaine de la mécanique quantique. Tout le monde a déjà entendu parler de cette fameuse mécanique quantique. La dualité onde-corpuscule, le principe d'indétermination de Heisenberg, le chat de Schrödinger, c'est une physique pleine de choses qui sont un tout petit peu contre-intuitives. Et l'intrication en fait partie. Deux particules, quelles qu'elles soient, peuvent être intriquées. Tout changement qui est subi par l'une sera alors également subi par l'autre, et ce sans contrainte de distance. Imaginez un petit peu la situation suivante. Vous êtes chez vous et vous avez un photon devant vous immobile, et un de vos amis à New York a un autre photon devant lui, immobile également, totalement différent du premier, mais ces deux photons sont intriqués. Si par hasard vous décidez de donner une pichenette dans votre photon et de le mettre en mouvement, il va se produire exactement la même chose avec le photon new-yorkais. Ce phénomène d'intrication fait beaucoup réfléchir depuis sa mise en évidence dans les années 30, et même les plus grands physiciens se sont arrachés les cheveux sur le problème. Mais qu'est-ce qui a changé par rapport aux connaissances précédentes sur l'intrication de particules ? Eh bien avant, on arrivait à peu près à décrire un système de deux particules intriquées. On a même réussi à produire de telles particules en laboratoire. Mais là, il s'agit de faire pareil avec non pas 2, mais 16 millions de particules. Pour cela, les chercheurs ont utilisé un assemblage d'oscillateurs spintroniques, les mêmes que la semaine dernière, bien trop complexes pour que quiconque à part eux puisse le comprendre, et ils ont lancé dessus 16 millions de particules indépendantes les unes des autres qui sont ressorties toutes intriquées. Ce système avait déjà été utilisé pour des nombres bien plus faibles de particules, de quelques dizaines à quelques milliers, mais les physiciens rencontraient encore de nombreux problèmes dans la mise en pratique qui ont maintenant été résolus. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'intriquer beaucoup de particules comme ça ? C'est pas juste un jeu de physiciens, parce que l'intrication est aujourd'hui l'alternative en voie de développement la plus concrète à la fibre optique dans le milieu des télécommunications. Le principe de fonctionnement est assez simple. On envoie un photon dans un certain état quantique, un état quantique qui serait donc le symbole de l'information à véhiculer, et ce photon, on l'envoie dans une fibre optique. Ce photon rencontrerait un cristal, et par phénomène d'intrication, fait rentrer tous les atomes composant le cristal dans le même état quantique que lui. Il ne reste plus qu'à émettre un photon intriqué aux atomes du cristal, et de le laisser continuer son chemin jusqu'au prochain cristal, etc. En utilisant un réseau de cristaux, on pourrait réussir à communiquer l'information quantique sur de très longues distances, et ce sans problème d'affaiblissement du signal ou d'interférence avec d'autres signaux émis. Ceci reste encore à l'idée de projet, mais l'équipe de physiciens détentrice du record est déjà en quête de ce fameux cristal relais. Abordons à présent notre deuxième sujet. Des neurophysiciens ont réussi à décrypter un nouveau mécanisme biologique gouvernant la mémoire chez les mammifères. Alors déjà, est-ce que vous vous êtes déjà demandé sur quoi était basée la mémoire ? Mais en fait, la mémoire, elle est basée sur la force des connexions entre les différents neurones via leurs synapses. Alors les neurones, ce sont les cellules constitutives du cerveau, et elles sont formées d'un corps et de connexions avec les autres neurones, les axones et les dendrites. Les axones sont chargés de véhiculer le potentiel d'action, qui est le potentiel électrique véhiculant les informations de neurone en neurone dans le cerveau. Pour que les axones des différents neurones puissent échanger l'information entre eux, ils se connectent dans une zone appelée synapse. À l'extrémité de chaque axone se trouvent des vésicules, sortes de petits réservoirs remplis de neurotransmetteurs, qui sont des molécules chimiques. Quand le potentiel d'action arrive au bout de l'axone, les neurotransmetteurs sont libérés dans le milieu intersynaptique et sont récupérés par les récepteurs de l'autre axone, qui créent à leur tour un potentiel d'action véhiculé par le second axone, etc. Il semblerait que la mémoire d'un événement soit en fait liée à la force de la connexion entre les différents neurones. Une connexion serait d'autant plus forte que la quantité de neurotransmetteurs émise augmente et que le nombre de récepteurs augmente également. Mais qu'est-ce qui a été découvert de si surprenant dans le mécanisme de la mémoire ? Eh bien, il y a environ 15 ans, l'équipe de Daniel Choquet, un chercheur en neurosciences de Bordeaux, a remarqué que des récepteurs en dehors de la synapse étaient en mouvement et qu'ils étaient agités d'un mouvement brownien qui est un type spécial de mouvement aléatoire dans l'espace. Les chercheurs ont également remarqué que deux voies de recrutement des récepteurs existaient. Soit ils migraient à la surface de la cellule, soit ils provenaient de vésicules réserves présentes dans le cytoplasme de la cellule et libérées à la surface de la cellule. l'équipe a réussi à bloquer le mouvement de ces récepteurs externes à la synapse et a étudié l'impact de cette immobilisation sur des souris. Ils ont tout simplement placé une souris dans une cage et ont associé à cette cage un sentiment de peur via un stimulus électrique. Quelques jours après, ils ont remis les souris dans la cage. Celles dont les récepteurs hors synapse avaient été immobilisés n'ont pas été apeurées, au contraire des autres. L'équipe en a donc conclu que sans la mobilité de ces récepteurs, l'activité synaptique ne pouvait pas être modulée et donc qu'aucun renforcement n'était possible. Mais du coup, quelles avancées est-ce que cette découverte pourrait engendrer ? Eh bien, ces travaux ouvrent la voie à de nouvelles méthodes pour traiter les souvenirs traumatiques ou les maladies de l'oubli, comme la maladie d'Alzheimer. Daniel Choquet estime que la technique nécessite des améliorations et que tous les mécanismes biologiques de la mémoire ne sont pas encore bien connus. C'était les deux faits marquants de ces deux semaines d'absence dans l'actualité scientifique. Et maintenant, on va passer aux autres petits faits marquants de la semaine. Tout d'abord, notons la mise en service cette semaine de la première ferme d'éoliennes marines flottantes du monde. Elle est située au large des côtes écossaises, et ce premier parc éolien flottant est constitué de 5 éoliennes de 253 mètres de hauteur chacune, qui pourraient alimenter au total 20 000 foyers. Chaque éolienne est installée sur un flotteur cylindrique de 90 mètres de long et 14 mètres de diamètre, relié par des filins à 3 systèmes d'accrochage enfouis dans les fonds marins. Un logiciel gère la stabilité via l'orientation des pales de l'éolienne. C'est la première fois que des éoliennes marines sont implantées en utilisant ce système d'accrochage qui permettrait d'implanter des éoliennes jusqu'à une profondeur de plus de 800 mètres, soit 10 fois plus que les systèmes d'accrochage actuels. Plus on s'éloigne des côtes, plus le vent est soutenu et donc plus la productivité est élevée. Cette annonce va de pair avec les résultats concernant la pollution de l'atmosphère annoncés par l'Organisation météorologique mondiale qui confirme l'augmentation d'un taux de particules fines de CO2 pour une 37e année consécutive, l'accélération de la hausse du niveau de la mer et la hausse globale des températures sur le globe. Ensuite, certains physiciens se sont penchés sur la théorie de la météorite tueuse de dinosaures, qui devient de plus en plus concrète. Des chercheurs ont modélisé les conditions infernales après l'impact du météore au Yucatan, une région du Mexique, et ont réussi à estimer que 325 gigatonnes de composés soufrés et 425 gigatonnes de CO2 ont rempli l'atmosphère de la Terre à cette époque. Le soufre se comportant comme un réflecteur de lumière, la haute concentration en composés soufrés de l'atmosphère a causé un refroidissement de la planète de près de 26 degrés Celsius, ainsi que l'effondrement de la chaîne alimentaire car le phénomène de photosynthèse n'était évidemment plus possible. De plus, ces chercheurs ont réussi à estimer que l'angle d'impact du météore était de 60 degrés environ par rapport à la Terre, contrairement aux 90 degrés parfois évoqués. Enfin, notons pour les amateurs d'astronomie que dans le ciel de novembre, un événement plutôt rare va se produire. Vénus et Jupiter apparaîtront collés dans le ciel matinal du lundi 13 novembre. Ce rapprochement sera bien visible à la fois aux jumelles et à l'œil nu. À l'aube du 17 novembre, c'est avec la Lune que les deux planètes flirteront dans le ciel. Quelques autres rapprochements sont encore à prévoir avant l'éclipse de Jupiter par Vénus, qui est, elle, prévue pour le 22 novembre 2065. C'en est tout pour ce second épisode sur l'actualité scientifique de cette fin d'octobre et de ce début de novembre. On se retrouve la semaine prochaine parce que la science n'attend pas.